vendront, ça durera combien, je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens.
Chirac Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le teint, la rage, je me suis trouvé derrière les murs, pour avoir conduit une voiture, m'a interdit le territoire. J'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui ai laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves.
La rage.
Ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve.
La rage.
Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin.
La rage.
Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve.
La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, aujourd'hui je reçois une librairie avec plus exactement deux libraires engagés. Neil, bonjour.
Bonjour.
Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Alors Frédéric et Neil, vous connaissez bien Radio Libertaire parce que vous avez soit participé à des émissions, soit carrément fait des émissions. N'est-ce pas Fred?
Oui, tout à fait. On a participé à des bonnes dizaines d'émissions sur Radio Libertaire, sur plein de sujets différents, notamment. Et on avait animé il y a longtemps une émission sur le féminisme avec d'autres camarades. Voilà. Donc on connaît très bien les lieux et on est ravis de revenir aujourd'hui.
Merci de nous accueillir.
Oui, pour moi c'était évident. Quand Bernard nous a envoyé l'information sur, sur votre financement participatif, on s'est dit, tout de go, on va les recevoir, surtout que c'est jusqu'au 11 juillet sur la plateforme Ulule, mais on va l'expliquer en deuxième partie. La librairie La Flibuste, pourquoi elle s'appelle comme ça, cette librairie Neil?
Alors, La Flibuste, pour nous, c'est vraiment la piraterie. Et la piraterie, c'est une façon de vivre carrément. Et on voulait mettre ça en avant, le fait de prendre aux riches pour vivre, survivre et de partager ensemble de façon autogestionnaire. Ça nous a semblé être un bon message à passer pour les livres.
D'accord. Le livre, c'est un combat. Vous le dites bien sur le site de la librairie. Alors, pourquoi c'est un combat pour vous? Parce que nous, à la Fédération anarchiste, on a une librairie proche, qui est Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. On sait que le livre, c'est un combat, mais on aimerait l'entendre de deux autres libraires engagés.
C'est un combat à plusieurs niveaux. C'est d'abord et avant tout pour faire réfléchir, prendre du temps, c'est-à-dire faire des pauses aussi par rapport à une société qui est de plus en plus dans l'accélération, dans l'avidité, etc. Se poser, prendre un livre, c'est accepter de réfléchir, c'est accepter de prendre des opinions, de voyager, d'imaginer, en fait, tout ce qui nous sort de, on va dire, la routine de la société dans laquelle on vit. On est dans une société où tout est calibré, ordonnancé, que ce soit économiquement, politiquement, on doit toujours suivre des règles, des voies bien établi, etc. Le livre, c'est, voilà, c'est l'imagination, la liberté, des choses comme ça. Ça, c'est d'un point de vue global. Et après, le livre, c'est aussi un combat, parce que la diffusion du livre, la distribution du livre, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est des fois tenu par des gros groupes, on en reparlera peut-être. On en parlera notamment, par exemple, sur Bolloré, ou sur des choses comme ça. C'est une économie du livre très compliqué, parce que les librairies, c'est souvent des économies très pas forcément évidentes. On gagne pas beaucoup d'argent, il y a ce qu'on appelle des marges très faibles, avec des coûts très importants pour le coup. C'est un combat aussi
économique,
et c'est un combat, je pense, social, au sens peut-être de ce que les premiers penseurs anarchistes comme Kropotkine, Proudhon, Bakounine pouvaient parler, qui est celle du travail local, de parler avec les gens, d'amener les gens dans des lieux d'échange, de discussion, etc. Voilà.
Alors, la librairie La Flibuste, elle est au quartier des Rigolos, c'est ça, à Fontenay-sous-Bois.
Tout à fait.
3 rues Jean-Jacques Rousseau. Mm-hmm. Alors, vous l'avez fait exprès.
C'est vrai que l'adresse est...
Alors, elle a 6 années d'existence et elle s'étale sur 160 mètres carrés. J'ai tout résumé ?
C'est ça, c'est très, tout à fait, parfait.
Bon, alors, mais la librairie La Flibuste, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour donner envie à ceux qui nous écoutent sur Fontenay et aux alentours, ou à Paris, d'y aller.
Alors, c'est une librairie généraliste, avec un grand rayon jeunesse, avec des petits tabourets pour les enfants, pour les accueillir, des petits tabourets aussi pour accueillir les personnes âgées. Donc il y a un grand rayon sciences humaines, et ça on tient vraiment à insister dessus, parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Et puis il y a des BD, des mangas, du roman, et un grand rayon monde. Et on tient à dire qu'on n'a pas classé les livres par pays. C'est un rayon sans frontières, et on y tient aussi. Et il y a un rayon imaginaire, poésie, enfin voilà, tout est représenté. Et pour nous, c'est vraiment un lieu d'accueil, un lieu chaleureux, un lieu qui est destiné à mettre en avant le lien et le commun. Le commun, nous sommes nombreux, nous sommes pour la redistribution des richesses, pour la justice sociale, pour l'égalité et le partage. Et nous organisons énormément de rencontres et d'événements et de dédicaces, justement pour créer une vie de quartier, pour créer du lien et du commun, pour faire se rencontrer des gens dans une optique égalitaire, de justice sociale. On essaye toujours de mettre en avant des ouvrages qui nous paraissent pertinents à ces niveaux-là.
D'accord. Alors, il y a 15 jours, nous avions reçu deux éditeurs engagés du projet Débordé Bolloré.
Oui, bien sûr.
Donc, il est bien évident que on est dans la chaîne du livre. Les libraires sont dans la chaîne du livre. Donc, Débordé Bolloré, vous l'avez dans votre...
Oui, bien sûr. Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ?
Alors,
les librairies indépendantes se sont coalisées contre Bolloré. Donc on a signé le fameux appel, vous avez signé l'appel, et vous vous attendiez pas à ce que les éditeurs emboîtent le pas tout de suite, aussi rapidement. Parce que les librairies, c'est plus facile. Les éditeurs, c'est beaucoup plus compliqué.
Non, je dirais c'est plutôt le contraire, parce qu'en fait les éditeurs, enfin les librairies, elles sont obligées. Enfin, on a par exemple beaucoup d'ouvrages qui sont publiés par les éditeurs qui sont Bolloré. Par exemple, je prends un exemple, par exemple Sorge Chalandon, sort Chalandon, il est chez Grasset, qui appartient à Bolloré. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Bolloré, c'est monstrueux dans la chaîne vivre. C'est-à-dire que c'est...
Il a récupéré Gallimard.
Non.
Hachette, il a tout.
Mais oui. Il faut comprendre que Hachette, ça va de Grasset, Olive de Poche, donc c'est
Lola Lafont.
Voilà, c'est Lola Lafont qui est chez Stock, c'est Charles Chalandon, c'est Virginie Despentes, c'est tous les livres de poche, que vous pouvez, Jules Vallès est en livre de poche, enfin voilà. Donc, si vous voulez, Bolloré, c'est monstrueux en termes économiques. Donc, pour une librairie, nous, si on veut faire une librairie de quartier, généraliste, qui attire des gens, mais aussi, on va dire, avec des engagements politiques marqués, on ne peut pas, par exemple, boycotter Bolloré.
Oui.
Voilà.
C'est compliqué. Donc, c'est pareil à Publico, on s'en est rendu compte très rapidement.
Voilà.
Mais on peut déborder Bolloré.
Voilà. Oui.
Ce qu'on fait, nous, par exemple, c'est qu'on boycotte Fayard. Voilà, Fayard qui est en gros qui est, il faut comprendre que dans Bolloré a ciblé Fayard comme et a pris Fayard comme étant son espèce de navire amiral pour donc dedans vous allez retrouver bien sûr Bardella. Donc d'ailleurs vous pouvez regarder sur nos réseaux sociaux, on a une petite anecdote rigolo parce qu'on a refusé une fois. On refuse de vendre Bardella, on refuse de vendre Zemmour, c'est ça c'est notre choix éditorial.
Mm-hmm. On ne vend pas l'extrême droite.
Voilà, et on refuse de le commander. Sachant qu'il y a des libraires qui disent qu'ils n'ont pas le droit, mais en fait, on a le droit. Parce qu'il y a une loi, une jurisprudence, par contre, du début des années 2000, je ne sais plus quelle année, qui dit qu'un libraire a le droit de refuser de commander quelque chose qu'il n'a pas en stock. On n'a pas le droit de refuser de vendre quelque chose qu'on a en stock, mais on a le droit de refuser de commander ou de vendre quelque chose qu'on n'a pas en stock.
Ça, c'est, on voilà. le savait, nous, à
voilà.
Publico.
Voilà, mais il y a des libraires, même engagés, qui ne savent pas. Donc, c'est important de le rappeler. Mmh. On n'est pas obligé d'avoir Bardella en stock ou d'avoir les bouquins de Fayard ou de Zemmour, je ne sais pas quoi, en stock. Nous,
sauf au cœur du Z de Vincent, comment il s'appelle, celui qui a infiltré Zemmour.
Oui. Les livres sur Zemmour, c'est autre chose.
Oui,
donc voilà.
Si
donc du coup,
combattre.
Nous, par exemple, on boycotte Fayard. Mm-hmm. Très clairement, on ne vend pas Fayard, on ne commande pas Fayard parce qu'on sait que c'est le navire amiral de Bolloré et que Bolloré est suffisamment malin pour ne pas forcément aller embêter les autres éditeurs du groupe.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Après, il commence à y avoir pas mal d'auteurs qui changent, qui partent de Grasset pour aller à l'Iconoclaste, je ne sais pas, Judith Pérignon, Gaël Nohant, enfin voilà, des gens comme ça qui commencent à bouger petit à petit.
Oui.
Voilà, mais donc c'est un sujet qui est important. Ce combat, il est important. Nous, on va le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on va essayer de pousser au maximum les petites maisons indépendantes.
Voilà, c'est ça. Ouais. On prend le contre-pied plutôt que de ne pas vendre Jules Vallès, ce qui serait ridicule.
Oui.
On met en avant les éditions Libertalia, les éditions du Commun, Nada, évidemment, et on essaye de mettre en avant les maisons d'édition complètement indépendantes et qui évidemment ne
divergent
divergence oui, ouais. J'en oublie plein parce qu'on a tellement mais oui. On les met tout
l'envers.
En avant le monde à l'envers
oui.
Qu'est-ce que j'ai encore oublié tous nos copains et copines
oui voilà tous ceux qui sont dans Débordés Bolloré
voilà
oui, exactement
oui,
voilà
bien sûr. Bah, oui bien sûr ils sont ceux qui sont divisés par ce qui s'appelle Odo Diffusion voilà Odo Diffusion qui sont des vrais copains et des amis avec qui on a travaillé très longtemps
et qui font un travail sensationnel dans leur publication leur diffusion
et par exemple dans les box de soutien qu'on met en place ou dans les vous verrez que sur Ulule quand on expliquera mais il y a des contreparties des fois on peut prendre des contreparties quand on donne de l'argent ou nous on vend aussi des livres en soutien et on a des maisons d'édition qui nous ont donné des livres moins chers ou quasiment offrir des livres. Donc il y a Libertalia, Nada, Le Monde à l'envers, notamment.
Oui.
Je crois que c'est essentiellement ces
trois.
Et Chaîne Éditeur en poésie, qui est une maison d'édition de poésie très indépendante, qui nous ont donné des livres moins chers, qui nous donnent, en gros, avec des remises plus importantes, en soutien à la librairie. Donc pour nous, c'était important. Donc c'est-à-dire que si vous venez à la Fibus, vous allez avoir l'entraide de Kropotkin. Teresa Claramunt chez Nada sur le féminisme en Espagne dans les années 30.
Tout à fait.
Enfin voilà, des choses comme ça. Les derniers livres de Libertalia sur les croisades, du London. Enfin voilà, on met ou le monde à l'envers sur l'écologie, etc.
Donc, ou bien le Guérin avec le capitalisme et le fascisme.
Voilà, fascisme et grand capital, Guérin. Mm-hmm. Voilà, donc nous. C'est notre manière de lutter aussi. Pour ça, c'est aussi un combat. La lecture aussi un combat de manière à mettre en avant les petits éditeurs indépendants. Et là où c'est un enjeu, par exemple, c'est que par rapport à quand qu'on lutte contre Amazon ou contre les gros groupes comme la Fnac, Amazon, etc., ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va sur Amazon, quand on achète un livre sur Amazon, après, il y a des algorithmes qui nous amènent à acheter et à lire toujours la même chose.
Tout à fait.
Voilà. Une librairie indépendante, vous y trouverez toujours quelque chose de différent, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui sera différent.
Je confirme.
Voilà. Donc c'est l'enjeu aussi, le combat de la lecture, il est celui-là. Il est aussi un combat contre
L'ennui.
L'ennui, et contre les nouvelles technologies, contre la numérisation du monde, contre le règne de l'algorithme.
Oui.
Voilà, où tout nous est décidé pour nous. Voilà.
Tout à fait.
On essaie aussi d'accueillir les auteurs de ces maisons d'édition indépendantes. Par exemple, là, récemment, on a fait une rencontre avec William Blanc à l'occasion de Robin des Bois. Oui. C'était extraordinaire. Et ça fait plaisir, ça fait du bien de rencontrer des camarades en librairie et pas juste des auteurs qui viennent vendre, quoi, et qui sont dans une autre démarche et on parle d'autres choses et on parle autrement. Et on a une proposition alternative, très clairement, hein.
Mais c'est ce que j'ai vu. Je ne vous connaissais pas avant de recevoir les informations par Bernard, qui s'occupe de services publics sur Radio Libertaire. Mais je vais aller vous voir. Je ferai des infidélités à Publico une fois de temps en temps, mais je vais vous voir. Alors, les horaires de la Flibuste, c'est du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Le samedi, c'est de 10h à 19h et le dimanche, c'est de 10h à 13h.
Tout à fait.
Voilà. Bien. Alors, donc, 6 années d'existence, comment vous est venue l'idée de fonder cette librairie, tous les deux?
Alors, c'était notre rêve depuis toujours.
D'accord.
On a toujours voulu être entouré de livres et promouvoir le livre. On l'a dit tout à l'heure, le livre, c'est un combat. Le livre, c'est la culture, c'est l'information. Et pour nous, l'information, c'est fondamental.
Ah,
c'est
oui.
En s'informant et en lisant et en échangeant qu'on parvient à décrypter les mécanismes de la société dans laquelle on vit et à réfléchir sur cette société et à essayer de penser autrement et de se dire, tiens, cette société telle qu'on la vit, le capitalisme tel qu'on le vit, la hiérarchie, la domination, le pouvoir, l'État tel qu'on le vit aujourd'hui, n'est pas une fatalité. On peut se battre pour changer les choses, mais c'est grâce aux livres qu'on a découvert tout ça, c'est grâce aux brochures qu'on a échangé là-dessus et qu'on s'est formé et qu'on a réfléchi. Et donc, pour nous, être entouré de livres et avoir une librairie et pouvoir diffuser nos idées et nos livres et faire le mieux qu'on peut pour que les gens se rencontrent dans une vie de quartier locale. Nous, on privilégie beaucoup le local. C'était fondamental et pendant des années et des années, on a exercé différents métiers dans différents endroits pour pouvoir un jour
avoir le capital,
avoir un petit peu de sous, ne serait-ce qu'un petit peu, pour pouvoir ouvrir une librairie.
Mmh. Alors, à Fontenay-sous-Bois, le lecteur, le client type, enfin, la personne type qui vit à la Flibuste, comment peut-on la découvrir? C'est une femme, c'est un homme, ce sont des enfants, c'est quoi le public?
Il y a
des fidèles.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, en effet. Ouais.
Ah, les femmes lisent plus.
Je pense, ouais. C'est sûr,
sociologiquement,
je saurais pas l'expliquer pourquoi, mais sociologiquement, ouais. Enfin, je pense que sociologiquement, je sais pas s'il y a des études là-dessus, mais oui. Mmh. Et après, nous, on a une clientèle très familiale.
Ouais.
C'est pour ça que ce qui est très important pour nous, la première chose, je pense, pour une librairie, même militante, même engagée, c'est qu'il faut que les gens s'y sentent bien.
Mmh.
Donc il ne faut pas les prendre de haut. C'est-à-dire qu'il faut aussi les prendre avec, on va dire, les choses pour lesquelles ils viennent. C'est que des fois on a des gens qui vont venir pour une commande de livres scolaires.
Oui.
Il y a des gens qui vont venir parce que pour un anniversaire. Ça passe beaucoup par les cadeaux, les librairies. Hein. Le livre, l'importance du livre encore en France par rapport à d'autres pays, notamment anglo-saxons, qui ont un peu tout cassé tout ça, c'est le cadeau.
Mmh. Voilà.
Donc à Noël, aux anniversaires, c'est là que nous on vend le plus de livres.
D'accord.
Et ce qui est assez beau et assez assez symbolique quand même, c'est que c'est une transmission, y compris concrète, de quelque chose.
Tout à
Donc,
fait.
Donc nous, on a une clientèle qui est vraiment très familiale. Voilà. C'est il y a beaucoup Fontenay, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris, de Montreuil, qui à un moment donné n'ont plus les moyens, qui ont des enfants, donc ils ont besoin d'un peu plus grand et donc ils vont à Fontenay où c'est encore un peu moins cher parce qu'il y a pas encore le métro, il y a juste le RER. Et le métro est encore un peu loin.
Ouais.
Bon, le RER c'est 7 minutes de la librairie en 8 minutes, donc c'est pas l'horreur, mais pour les gens déjà ça fait le RER c'est déjà
un autre monde.
Voilà, un autre monde. Et donc du coup, on est un peu un tout petit peu en dehors de Paris tout en étant juste à côté.
Mm-hmm.
Donc ça attire beaucoup de familles, de gens. Voilà. Ça, c'est, je dirais, pour moi, c'est un peu la famille type. Et après, ce pourquoi on est allé à Fontenay, c'est aussi parce que ça reste une ville progressiste, avec une histoire sociale assez forte, politique assez forte. Et donc, du coup, c'était plus logique pour nous d'être en banlieue parisienne, dans des quartiers populaire, mais en étant quand même assez logique, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait des gens qui achètent des livres. Ça s'est implanté en plein milieu d'un quartier que populaire, c'est compliqué aussi. Hein. Il y en a qui le font, comme le réservoir à Montreuil qui essaye, mais c'est difficile.
C'est très difficile.
Quand on monte une librairie, malheureusement, c'est aussi un commerce, donc il faut qu'on doit faire attention à tout ça.
Tout à fait.
Mais ça reste une ville où il y a une politique sociale, une politique culturelle, où il y a des gens avec des revenus, des capitaux culturels et sociaux différents, etc. Voilà. Donc, c'est pour nous, c'était important d'être là. Donc, on a tout ça dans notre librairie, avec un gros apport, en effet, par les enfants et par les parents qui suivent les enfants, ce qui est très rigolo.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a 6 ou 7 écoles autour de la librairie. Ouais. Donc, forcément, le quartier, c'est un quartier très familial. Mais je tiens quand même à dire qu'on a une partie de notre clientèle, petite partie qui est aisée, mais l'écrasante majorité des gens qui viennent, les lecteurs,
ils sont modestes.
Ils regardent le prix des poches, quoi. Et on en est là, et c'est vraiment, vraiment, on voit les difficultés sociales très, très fortement à la librairie, notamment pour les parents qui ont plusieurs enfants. Alors là, ça se complique. Les anniversaires au mois de juin, il y a beaucoup d'anniversaires, des cadeaux à offrir. On regarde les petits livres à 6 euros, hein, et on va plutôt vers ce genre d'achat symbolique. Parce qu'on voit bien aussi le panier moyen de notre clientèle qui baisse. Hein. Je sais plus de combien il était, puisque je ne retiens jamais les chiffres, c'est un problème que j'ai. Mais quand on est arrivé, il devait être à juste n'importe quoi, 25 euros par exemple. Et là, aujourd'hui, il doit être à 22. Enfin, on voit bien que les moyens baissent. On voit que les gens nous parlent, qu'ils n'arrivent plus à remplir leur caddie pour bouffer. Donc forcément, dans ces conditions-là, les livres, ça devient
un luxe.
Exactement. Hélas, la culture, toujours le parent pauvre de nos dépenses. Hein, hélas.
Et puis avec le ministre de la Culture qu'on a, ça ne va pas s'améliorer.
C'est non, certain.
C'est sûr que...
On n'a pas une vue très belle de l'avenir par rapport à ça.
Ouais. Non, mais d'un point de vue global, ce que nous on voit aujourd'hui à notre petit niveau dans la librairie, c'est ce qu'on pourrait dire politiquement globalement. C'est-à-dire qu'on sent la crise économique qui arrive, qui est la crise sociale. On la sent, mais violemment poindre. Nous, on connaît les gens, les habitants, les autres commerces. Et on voit toutes les choses qui sont au bord de s'effondrer. C'est-à-dire qu'on sent que les gens, le 15 ou le 20 du mois, ça commence à bloquer. Au lieu d'acheter une BD à 25 euros, ils vont plutôt acheter un truc à 15 euros et qu'ils font attention à tous leurs achats, à toutes leurs dépenses. Qu'ils mettent beaucoup, comme ils continuent à partir en vacances, une fois qu'ils ont payer leurs vacances, il reste pas grand-chose, par exemple. Quand il faut payer l'électricité, on a tous des rattrapages d'électricité parce que l'électricité a augmenté. Il y a une ambiance globale qui est compliquée et ce qui est chouette à voir dans une librairie, chouette, c'est pas le mot, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on palpe ce qu'on pouvait penser politiquement avant. On ressent tout ça. On ressent la pression, on ressent la peur, on ressent l'angoisse, on ressent les questions sociales qui se posent. Oui. Et on ressent l'abandon complet de l'État et des politiques. On le ressent profondément.
Comme toujours.
Oui, toujours. Enfin,
Ça saute aux yeux.
Ça saute aux yeux.
Ouais. On le ressent aussi à Publico.
Bien sûr. Ouais, ouais.
On le voit. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un... Une librairie, c'est pas qu'un lieu où il y a des livres. Il y a un échange. Nous, on a beaucoup d'échanges avec notre public. Et il y a des choses qui disent à la librairie qu'ils n'oseraient pas avouer ailleurs.
C'est clair.
Bien sûr.
Et vraiment...
Oui, c'est vrai.
Ça se tend. Et on se dit, est-ce que ça va être bénéfique pour la Révolution ? Soyons pragmatiques. Ou est-ce que ils vont encore accepter, jusqu'à quand ?
Moi, je dirais que c'est là qu'on a un rôle fondateur en tant que librairie. C'est que quand les gens rentrent dans la librairie, c'est un lieu de rupture avec l'extérieur. C'est pas un commerce classique, c'est-à-dire que c'est pas un commerce où quand vous rentrez dans un endroit pour acheter à manger, vous rentrez, vous achetez à manger. Si vous achetez des habits, n'importe quoi, vous rentrez, vous achetez des habits. Il y a des clients du personnel qui vous tombe dessus, vous voulez quoi. Voilà. Dans une librairie, on peut flâner, on peut prendre son temps, et nous, on sent dans la librairie que fois, les gens se retrouvent à 3-4. C'est marrant, ils discutent entre eux, leurs gamins se retrouvent, tiens, toi, t'es là, et en fait, c'est un lieu
C'est un hub.
De... Ouais, c'est un peu comme, je sais pas, comme les bourses du travail à l'époque, ou oui. Voilà, ce qui est un peu disparu maintenant, malheureusement. Enfin, oui. Pour nous, on a, quand on a monté une librairie, pour nous, il y avait un peu cette logique d'éducation populaire, de mm-hmm. bourse du travail, etc. C'est-à-dire de cette
un lieu social.
De, voilà, un lieu de vraiment. C'est ça. On dit de créer du lien social, maintenant, c'est un peu galvaudé, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un moment où créer du lien social, en soi, c'est déjà le premier acte révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'en est malheureusement pas à une confrontation globale.
Avec le.
Voilà, on va dire que là-dessus, on est un peu perdant pour l'instant. Malheureusement.
Pour l'instant,
oui, bien
c'est
sûr.
Provisoire.
Je suis pas défaitiste et loin de là.
Provisoire.
Mais justement, c'est recréer des lieux. Alors, tu parles de publico. C'est en gros, c'est le lieu où les gens peuvent venir se poser un moment, discuter entre eux, des
reprendre
fois écouter
des, forces,
des gens, reprendre des forces, etc. et sortir de l'accélération permanente du monde dans lequel on vit. Voilà.
Mmh. Et des écrans aussi.
Et des écrans, surtout pour les enfants.
Ouais. Oui, en plus. Bien sûr.
Bon. Alors, Frédéric et Neil, on va faire une pause et on va parler des difficultés de la Flibuste, parce que tout n'est pas rose à la Flibuste. Chers auditeurs de La Rage de Dents, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission passionnante sur la Flibuste avec Neil et Frédéric. Donc la librairie La Flibuste, c'est combien tous les mois,
Frédéric? En chiffre d'affaires,
en charge.
Ah, en charge. Alors c'est à l'heure actuelle, notre énorme problème, c'est le loyer.
Voilà.
On a un loyer qui aujourd'hui, si je prends en gros charges comprises, etc., est quasiment arrivé à 7 000 euros.
C'est énorme.
C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'on est, on est sur des tarifs, même à Paris, c'est gros. C'est même à Paris 12e, c'est gros. Sachant que nous, on est
en banlieue.
En banlieue. Alors, c'est pas lointaine banlieue, mais en banlieue intermédiaire, on va dire. Donc, on est quasiment à 3 ou 4 000 euros de plus que le loyer qu'on devrait payer normalement par rapport à l'endroit où on est. Et le problème, c'est qu'on a un bailleur, un gros bailleur. Quand on a négocié le bail, quand on est arrivé à 6 ans, on a réussi à le négocier. Et à l'époque, on payait à peu près 4 000 ou 4 500, je crois.
4 500.
Voilà. Et pendant le loyer était augmenté progressivement pendant 3 ans. Et après, il y a ce qui s'appelle le...
Rattrapage.
Alors non, ce qu'ils appellent l'IRL, c'est-à-dire en gros l'indice de référence des loyers qui font qu'ils ont le droit d'augmenter automatiquement le loyer de 10% tous les ans. Sauf que quand vous prenez 10%, vous avez... Alors, on précisera après, mais je peux en préciser un peu, mais en gros, dans un bail commercial, on peut augmenter de 10% le loyer tous les ans. Sauf que quand vous avez déjà un gros loyer, vous imaginez ce que ça fait 10%, vous rajoutez 500 euros par mois la première année, puis encore 500 euros l'année d'après, et au bout de 3 ans, vous payez 1500 euros de plus par mois. Donc c'est ce qui nous arrive.
Et le problème, c'est que on s'est renseigné, on a montré le bail à une juriste, on a montré le bail à des gens aussi de la mairie. Enfin, tout le monde a regardé ce bail et il est légal, effectivement, mais il y a le problème de la valeur locative. Exemple, il y a un immeuble neuf qui se construit en face de la librairie, donc même quartier, qui fait 80 mètres carrés et il le loue à 2000 euros. Nous, avec nos 160 mètres carrés, on devrait louer 4 000 euros. Et ça, pour faire valoir ça aux bailleurs, c'est toute une bataille. Et on va se lancer là-dedans.
Ah, d'accord. Bien. Alors, donc, vous avez décidé de sauver la flibuste. Donc, j'ai le flyer. Il est superbe. On a une photo de la flibuste. Participez sur Cagnotte en ligne jusqu'au 11 juillet. Donc, c'est pour ça que on vous reçoit rapidement et... Donc c'est Ulule, la plateforme de paiement. Alors, on doit préciser qu'il y a 570 contributeurs à date. Le palier est fixé à 45 000 euros et on a atteint 35 422 euros pour l'instant. Il nous reste une dette locative de 61 000 euros à régler. Vous avez fait 2 emprunts. En fait, en tout, votre dette se monte à 138 000 euros.
Oui.
Si j'ai bien tout compris.
Tout à fait. Alors, en fait, 138 000, c'était un peu pour marquer les esprits, sachant que la dette bancaire, c'est pas tout à fait la même chose que la dette de loyer. La dette de loyer, elle est exigible à maintenant.
Oui.
On va dire. Voilà, d'accord. Parce qu'en gros, depuis plusieurs mois, on a expliqué au bailleur, on a dit, nous, là, on ne peut plus payer le loyer que vous nous demandez, donc on paye le loyer qu'on considère être celui qu'on devrait payer, qui est le 4 000 euros. Donc, ouais. Du coup, on a cumuler une dette. Mmh. Mais pour payer même le loyer pendant un moment donné, on est obligé de contracter des emprunts bancaires pour avoir de la trésorerie.
D'accord.
Mais ces emprunts bancaires, on va dire, ils sont remboursables sur 5 ans. Mais sauf que, ils ont beau être remboursables sur 5 ans, c'est quand même 2000 euros de remboursement par mois. Mmh. Donc il faut qu'on ait de la trésorerie pour payer ces emprunts bancaires. Mais c'est pas tout à fait la nature. Mais c'était pour expliquer un peu aux gens. Notre vraie dette immédiate, elle est autour de 60 000 euros.
Voilà.
Qui est exigible par le bailleur. Donc on a mis en place plein de choses. Enfin voilà, il y a la Ulule, donc qui est une plateforme de contribution en ligne. Alors en fait c'est un peu compliqué parce que en fait il faut mettre un premier palier qui s'appelle le tout ou rien, c'est-à-dire que si on n'atteint pas le premier palier, on touche rien. Si on l'atteint, tout ce qu'on a au-dessus, on le touche automatiquement. Donc on avait un premier palier qui était à 20 000 euros qu'on a atteint très rapidement parce qu'on a eu une énorme mobilisation du quartier, de plein d'écrivains comme Nicolas Mathieu, je sais pas, Nico Tacchian, qui est un auteur de polar, des missions d'édition indépendantes dont on a parlé tout à l'heure, etc., qui fait qu'il y a eu un énorme engouement très rapidement. Et après, on met des paliers. Donc, on avait un deuxième palier qui était à 30 000 euros, qui permettait, après 45 000 euros, qu'on dit que ça paye 2/3 de la dette locative, après 60 000 euros, qui paye l'entièreté de cette dette locative.
On va y arriver.
Voilà. Voilà. Donc, on met en place plein de choses pour le faire, des vidéos, des liens, on vous remercie énormément de nous recevoir. Nous, c'est très important, encore une fois, quand même.
Entre librairies, on peut
oui,
se recevoir.
Oui, puis Radio Libertaire, c'est notre ADN, hein. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais. Ouais.
Et puis, on sera très content que la copie de l'émission soit sur votre site internet. Comme ça.
Voilà.
Ce sera un clin d'œil. Bien. Donc, 61 000 euros. Jusqu'au 11 juillet, on sait que c'est un peu juste pour beaucoup d'entre vous qui s'apprêtent à partir en vacances, mais vraiment pour la flibuste, si vous pouvez faire quelque chose, Je vous en remercie à l'avance. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Comment est venue l'idée de choisir Ulule et de faire les paliers? Comment ça s'est organisé, Neil?
Alors, en fait, on a regardé un peu. Alors, je tiens quand même à dire que on n'est pas des pros d'Internet. Nous, on combat les écrans, on combat le numérique. Je tiens quand même à le dire parce que là, on se retrouve à expliquer un truc. Mais voilà, il n'empêche que, il a fallu qu'on se batte et on s'est dit, bon. Ça fait connaître, voilà. Tout simplement, c'est juste pour faire connaître. De toute façon, nous, évidemment, on privilégie le contact humain et la rencontre humaine dans la librairie. Mais c'est aussi une façon de parler à des, comme on l'a dit tout à l'heure, à des auteurs, à des éditeurs, et aussi à des amis, à de la famille qui vivent pas à Paris. Et c'est une façon d'envoyer un message rapide à tout le monde, en gros, parce qu'on était sous le coup de l'urgence. Et on a regardé un peu les plateformes qui existaient. Et très honnêtement, on a un peu choisi au doigt mouillé entre 2-3 plateformes, parce qu'on n'y connaît rien, quoi. Bon, il se trouve que, franchement, bon, c'est pas pour faire, je fais pas du tout de pub, mais on est, enfin, c'est des gens sympas. On a des interlocuteurs très sympas.
Ils sont sympas.
Ils sont sympas.
Ils ont la réputation de l'être.
Ouais, ils sont sympas, ils sont corrects. Alors après, ils ont un système, voilà, c'est par palier. Alors, il y a plein de gens qui débarquent sur le site, qui n'y connaissent rien, comme nous, les premiers, qui disent, mais attendez, il y a 20 000 euros, vous l'avez atteint, c'est bon, quoi. Et en fait, on est obligé de réexpliquer à chaque fois, mais non, mais en fait, c'est 61 000, 138 000. C'est un système de palier. Bon, voilà, c'est le fonctionnement d'Ulule, c'est pas bien grave. On explique à chaque fois, on explique. Et bon, ça a l'air de fonctionner puisque, bon, alors, on est les premiers surpris, hein, parce que nous, Internet, comme j'ai dit, c'est pas du tout notre monde. Et manifestement, ça donne quand même des perspectives. Et puis, ça nous permet aussi de négocier avec le bailleur, de dire, voilà, on s'est bougé, on n'arrête pas de se bouger. Là, on a un petit pécule. Là, maintenant, on peut négocier. Et on a fait appel au tribunal de commerce, hein, quand même. Hein.
Alors, le bailleur, il doit être mal, parce que ça lui fait une mauvaise réputation, déjà, de grippe-sous. Et de rap tout. Donc, à mon avis, si vous allez au tribunal du commerce, il va mettre la pédale douce, je pense.
On verra. Après, il faut comprendre. Oui. Le tribunal de commerce, en fait, les gens comprennent pas. Nous, même nous, on n'avait pas compris. Hein. Mais le tribunal de commerce, c'est paradoxalement un tribunal classique où vous avez très peur d'y aller, à juste raison. Le tribunal de commerce, c'est un tribunal qui a plus la vocation à aider les entreprises qui sont dans la difficulté qu'à les plomber. En fait, c'est très, enfin, pour nous, ça a été une révolution d'arriver à comprendre ça. Hein. C'est que, en fait, on a heureusement un client adorable et très gentil qui est juge au tribunal de commerce, et c'est lui qui nous a dit d'aller au tribunal, de saisir le tribunal, et qui nous a expliqué un peu
le maniement.
Voilà, qui, en fait, ils vous mettent sous protection. C'est-à-dire que le tribunal vous met sous protection, il gèle les dettes, et il peut vous aider soit par des mandataires judiciaires, soit par des procédures plus compliquées de mise en redressement, de cessation de paiement, etc. Ça vous gèle les dettes, ça vous permet de négocier avec vos créanciers, mais avec un rapport de force un peu plus costaud que si c'est vous. Enfin, si c'est Neil ou moi qui arrivons en disant « Monsieur le bailleur, on voudrait négocier », il fait « Non ».
On l'a fait pendant très longtemps, mais là, bon, il veut plus jouer. Donc,
voilà. C'est un mandataire judiciaire, ce qui est plus ou moins en train de se mettre en place, ça change. Voilà, ça change les choses. C'est
déjà, le rapport est différent.
C'est un tribunal, c'est différent. Il y a un côté judiciaire derrière,
Puis il y a le gel des dettes, ils peuvent aussi se retrouver avec leurs dettes rayées.
Bien sûr, hein, parce qu'après, si on ne paye pas et qu'on finit en liquidation judiciaire, parce que c'est le risque, ou qu'on est expulsé, pour eux, la dette, elle est perdue. Donc,
ils ont intérêt à négocier.
Voilà.
Et à être moins rap-tout. Voilà.
Sachant que globalement, le problème des loyers et des bails, et des baux, pardon, ça a été expliqué par tous les grands penseurs critiques depuis le début de notre naissance du capitalisme, qu'on appelle la rente foncière, un problème fondamental. C'est-à-dire que dans toute l'économie locale, la petite économie locale, les petits commerces, je petits commerces familiaux, etc., tout le monde aujourd'hui meurt de ça. C'est-à-dire que les bailleurs sont les derniers aujourd'hui à continuer à exiger des loyers de plus en plus dingues pour, en gros, aller spéculer sur les marchés.
Tout à fait.
Mais tout en tuant, vraiment, en détruisant l'économie locale, qui est quand même...
L'économie sociale et circulaire.
Et voilà, exactement. Voilà, l'économie sociale et circulaire, qui est quand même quelque chose qui est fondamental dans nos sociétés. Enfin, je veux dire,
c'est la véritable économie, en fait.
Et qui évite d'aller je sais pas où. Et en fait, ils sont en train, aujourd'hui, de détruire ça.
Pour faire du capitalisme sauvage.
Voilà. Et donc, ce qui est marrant, aujourd'hui, nous, la librairie, en tant que Phibus, on est contacté par plein d'autres libraires de Montreuil, Des rires et des livres à Montreuil, La Franchie à Lille. Enfin, voilà, il y a plein de librairies qui aujourd'hui sont en grande difficulté à cause du loyer et des loyers qui augmentent.
Et je me demande si on ne devrait pas faire une internationale des libraires.
Il faudrait, c'est compliqué. C'est le problème, c'est que les libraires, on est tellement débordés de boulot qu'on oui, on en a déjà parlé 150 fois entre nous, mais qu'on n'y arrive pas.
Je confirme, mais ayant passé le week-end dernier voilà, à la braderie de Publico, on est débordés de travail. Ouais. Donc, pour s'organiser, faire des réunions et monter un collectif ouais, contre le foncier, il faudrait avoir plus de temps.
Mais ce qui est fou, c'est d'un point de vue politique et économique, c'est qu'il n'existe aucune loi en dehors de la question de la valeur locative, mais qui est quelque chose, on va dire, qui est juridique, il faut aller au tribunal, mais il n'y a aucune loi qui permet, par exemple, à une municipalité de plafonner ses loyers.
Tout à fait.
C'est complètement fou. C'est-à-dire que les bailleurs.
C'est le capitalisme.
Font... Non, mais ouais. Mais le capitalisme dérégulé le plus absolu.
Tout à fait.
Dont personne ne s'est jamais rendu compte. Et en fait, les politiques.
Ah, si, ils s'en sont rendus compte.
Non, je veux dire, les politiques n'ont jamais rien fait pour y réfléchir ou pour y remédier.
Ah, ils sont élus.
Oui, bien sûr.
D'accord. Ils n'ont pas été d'accord.
Mais là, aujourd'hui, on arrive au bout d'un cycle. Et nous, ce qui est intéressant et là où il y a un combat politique fondamental, c'est que les petits commerçants, qui sont des gens qui traditionnellement ne sont pas vraiment de notre bord, on va dire, malheureusement, en fait, nous, on voit dans notre quartier, tous les petits commerçants nous soutiennent à fond. C'est-à-dire qu'on est devenu un peu le porte-étendard de cette situation-là. C'est-à-dire que notre affiche Sauver la flibuste, elle est dans tous les commerçants, de l'opticien, en passant par la fleuriste, en passant par le restaurant, l'éclanchiste à côté de chez nous, enfin partout, dans la boulangerie. Et en fait, on a une vraie relation de quartier. Et une vraie discussion autour de ça.
Et une résistance collective. Voilà,
sur la difficulté de ce qu'on appelle les pouvoirs publics ou des gens à aider, à réagir, à faire quelque chose, sur des fois leur incapacité légale à faire quelque chose.
Et votre député ?
Bah, notre député, c'est un député MoDem. Bon, j'avoue, on lui a envoyé le message, mais je crois qu'on l'a jamais vu. Enfin, c'est un député 94 qui fait Fontenay, Vincennes, Saint-Mandé.
C'est
compliqué. Je pense qu'il y a je pense profondément que les politiques, au-delà du fait que de toute façon nous on a toujours été par essence un peu méfiants ou très méfiants, comme tu disais tout à l'heure, mais on va dire que le peu qu'ils puissent faire des fois quand même pour arranger les choses, pour eux le commerce ou le petit commerce ou la vie de quartier, c'est quelque chose qui est très lointain. Et ils n'ont jamais compris, en fait, ce que ça voulait dire. Ils n'ont jamais compris ce que ça voulait dire que d'avoir des petites librairies. Alors, il y a des villes qui le font aujourd'hui, hein, qui préemptent des locaux, qui mettent, par exemple, ils ont fait ça à Charenton-le-Pont, à Kremlin-Bicêtre, à Champigny, enfin, en Vitry, enfin, je pense, et puis en province aussi, il y a des villes qui prennent des locaux, qui les mettent à disposition de librairies moins chères et qui peuvent le faire pour d'autres commerces. Hein.
Mm-hmm. À Paris, même Vincennes. Hein. Ouais. Vincennes, ils ont le marché public de la médiathèque de la ville et ils ont des aides pour leurs locaux. Ouais. Donc nous, on attend aussi un peu ce soutien-là. Hein,
parce qu'il y a ça, par exemple, vous voyez, un autre sujet politique fondamental pour les petites librairies indépendantes, c'est que les médiathèques, par exemple, les médiathèques ou les bibliothèques municipales, elles achètent leurs livres.
Tout à fait.
Voilà. Et en fait, elles les achètent essentiellement à des énormes groupes, des espèces de.
J'ai jamais Amazon. Compris pourquoi elles le faisaient.
Parce qu'en fait, il y a la question des lois d'appel d'offres et que les appels d'offres, en fait, bon, c'est les appels d'offres publics, on va dire. Bon, déjà, je pense qu'il y a des enjeux financiers.
Oui. Voilà.
Et puis ces gros groupes-là, ils vont vous apporter une espèce de sous Amazon ou de sous Fnac, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, mais moi, j'ai un site internet où vous cliquez sur les boutons, vous avez rien à faire.
C'est terrible.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est l'antithèse de ce que nous on peut prôner, ou de ce qu'une librairie peut prôner, ou de ce que le livre peut prôner. Et donc, du coup, ceux qui gagnent sont souvent, des gros groupes qui peuvent apporter une espèce de solution clé en main de facilité numérisée, déconnectée.
Alors que nous avons Paris Librairie qui est formidable.
Voilà, par exemple.
Quand vous rentrez à Publico ou à la Fibuste, si vous n'avez pas le livre, le libraire, Nils, Frédéric, Laurent ou Christophe pour Publico, va sur Paris Librairie et il vous dit. Quelle est la librairie la plus proche où vous trouvez votre livre ? Bien c'est sûr. Un service en plus.
Mmh. Et vous pouvez le commander aussi. Hein.
On peut le commander aussi. Mmh. Donc, c'est formidable. Bien et sûr. Les clients sont ravis. Et en plus, on a des clients entre librairies. Bien nous sûr. Avons la librairie Lacassia qui n'est pas très loin de Publico, qui nous envoie des clients en disant, nous ne l'avons pas, mais si vous allez à Publico, vous êtes sûr d'avoir le livre. Mmh. Et effectivement, nous l'avons.
Nous, c'est ce qu'on fait souvent. Hein.
Par exemple, Mutamo, notamment. L'autre librairie de Fontenay qui est elle aussi est en difficulté, hélas. Ah, d'accord. Oui. Mmh. On se soutient les uns les autres, on s'envoie des clients.
Avec Folie d'encre à Montreuil aussi. Oui. Même avec Mille Pages Vincennes, des fois, on s'envoie des. Enfin, il y a, on va dire.
Une véritable solidarité.
Oui. Dans la librairie, il n'y a pas de. Nous, à notre niveau, je ne connais pas toutes les situations, mais il n'y a pas vraiment cette notion de concurrence, en fait. Parce
non,
qu'on est
on
un
est
peu
complémentaires.
Tous dans le bateau. Là où on a de la concurrence et là où c'est compliqué, c'est avec les grosses boîtes ou les gros groupes. Voilà. Ça sera le numérique, ça va être Amazon, ça va être la Fnac, ça va être ces gros. Ou, je sais pas, les cultures. Voilà, même si c'est compliqué parce qu'il y a certains endroits, il n'y a que ça. Donc les gens, ils vont là parce qu'il n'y a que ça.
Bah oui.
Voilà. Les gens, ils vont sur Amazon parce qu'il n'y a pas de librairie. Hein. Très clairement, je veux dire, nous, les gens, quand ils veulent commander un livre, même pour leur gamin, pour l'école, un petit truc à 3 euros, les trois quarts, ils sont très bien contents de venir dans notre librairie pour le commander. Mmh. Souvent, ils vont sur Amazon parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Je veux dire, le numérique prend la place d'eux. Hein. C'est comme si vous achetez vos habits moins chers sur Internet, ou vous déjouez pour vos gamins, ou n'importe quoi. Vous l'achetez sur Internet parce que vous n'avez pas ça à côté de chez vous.
Hein. Tout à fait.
Ouais. Mais c'est un modèle de société qu'on nous impose. On nous impose le numérique, on reste chez soi, on clique, on ne se rend pas compte que derrière, il y a des tas d'êtres humains qui travaillent, et souvent dans des conditions déplorables. Mmh. Et Amazon, et puis après, on a des dépôts immenses. Et on n'a plus de vie de quartier. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Par Est-ce contre, que c'est ça qu'on veut?
On a Jeff Bezos qui se marie à Venise, voilà. Et qui est capable de louer Venise, et qui refuse de payer des impôts nécessaires pour qu'on ait,
exactement.
On ait une vie de quartier et qu'on ait des services publics,
exactement.
À hauteur à Venise, exactement. Et dans le monde entier.
Ouais.
Donc, c'est ça.
C'est ça.
Donc, d'où la campagne de Tax the Rich. Qui a essayé de perturber son mariage fastueux à Venise le week-end dernier. Donc j'en profite pour.
Mais oui, bien sûr, il faut.
Oui, putain, on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais derrière le modèle Amazon, le modèle numérique, derrière Bolloré, on en parlait. Derrière, il y a aussi toute la question de la France-Afrique, il y a toute la question du colonialisme, la question du pillage des ressources. C'est-à-dire que Amazon, Internet, les téléphones, ça n'existe pas sans les minerais du Congo, ça n'existe pas. Bolloré n'existe pas sans la France-Afrique, le colonialisme, ses ports en Afrique. Et, toutes ces choses-là n'existent pas.
Est-ce que c'est ça qu'on veut ?
Ça n'existe pas sans ça. C'est-à-dire que il y a des choix de société derrière le fait d'avoir une librairie.
Tout à fait.
Voilà,
le capitalisme et le colonialisme.
Exactement.
C'est les deux C.
Bien sûr.
Exactement.
Ouais. Et l'État. N'oublions jamais l'État, on est sur Radio Libertaire.
c'est gentil de me rappeler à mes devoirs. Merci Frédéric.
Je t'en prie.
Donc je rappelle que nous sommes dans l'émission La Rage dedans. Et qu'aujourd'hui, le thème, c'est « Sauvons la Flibuste », une librairie vivante, solidaire et engagée, à Fontenay-sous-Bois, dans le quartier des Rigolos, 3 rue Jean-Jacques Rousseau, à Fontenay-sous-Bois. Alors, je rappelle les horaires, pour ceux qui voudraient y aller, c'est à partir de demain, mardi, donc de mardi à vendredi, de 10h à 13h, et de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h, et dimanche de 10h à 13h. Alors, pendant que j'y suis, autopromo pour Publico. Nous, Publico, c'est du mardi au vendredi de 13h à 19h30. Le samedi, c'est de 10h à 19h30. Et le dimanche, c'est de 13h à 19h30. Voilà. J'embrasse Laurent et Christophe, qui sont nos libraires chéris. Et merveilleux. Et qui font que Publico est connu dans le monde entier, parce que pour la brocante, j'ai reçu une japonaise qui avait entendu parler de Publico depuis le Japon.
Bien sûr, bien sûr. Ça ne m'étonne pas du tout. Non, mais c'est vrai.
Depuis le Japon.
Au Japon, il y a des mouvements libertaires très importants depuis
tout
très
longtemps.
Tout à fait. Il y a un très bon livre qui s'appelle Le bateau-usine sur les mouvements ouvriers.
Voilà, j'allais y venir.
Au Japon dans les années 20.
Voilà, un manga. Voilà, qu'on vend à Publico et qu'on vend à la Flibus.
Et qui existe chez Alia en roman aussi.
Tout
en roman
fait.
Et en manga, il y a les deux.
On a le choix.
Voilà. Alors, je rappelle que la plateforme Ulule donc héberge votre demande de financement participatif. Il faut atteindre d'ici le 11 juillet les 45 000 euros, voire les dépasser. Donc, la dette locative est à 61 000 euros, donc il faut l'atteindre pour vous permettre de souffler.
Exactement.
Voilà. Et vous aurez une décision du tribunal de commerce quand ?
On ne sait pas encore. Normalement, c'est le 22 juillet. A priori, on a une audience le 22 juillet. Le temps d'essayer de trouver une solution avant de passer au tribunal. Parce que c'est toujours mieux de ne pas passer devant le tribunal.
Tout
et d'arriver
fait.
À trouver une solution avant. Donc là, on est en cours de discussion, de négociation. Voilà. Donc normalement, c'est le 22 juillet qu'on saura un peu où on a. Donc nous, l'enjeu qu'on a, qui est fondamental et central, c'est d'arriver à refaire de la trésorerie de manière à toute façon pouvoir payer une partie de la dette, à pouvoir tenir l'été, qui est une période compliquée pour les librairies.
Tout à fait.
Parce que bon, c'est un peu de la gestion est compliquée, mais en gros au mois de juillet-août, on paye quand même des factures qui sont
oui.
importantes parce que c'est souvent les factures des livres qu'on a achetés en mai-juin,
mm-hmm.
qui sont des mois un peu plus costauds. Mais en août,
il y a moins de passage,
si on fait un tiers de mois, c'est bien. Et donc du coup, c'est des mois qui sont très compliqués. Voilà. Une librairie, ça fonctionne beaucoup au mois de novembre-décembre et au mois de juin. Le reste du temps, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà.
Oui.
Donc on fait beaucoup d'argent. Enfin, on fait beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est comme ça. En novembre-décembre et en juin, et puis le reste de l'année, on essaye de jongler avec la trésorerie de manière à ce que ça passe. Quoi.
Alors, les prochaines contributions, les prochaines personnes qui viendront à la Flibus, c'est qui pour donner envie aux gens de venir? Vous avez une idée du calendrier?
Oui, alors le 5 juillet, il y a une copine qui est hyper sympa, qui est artiste à Fontenay-sous-Bois, qui m'a dit, tiens, Neil, j'aimerais bien soutenir votre librairie, et j'aimerais bien faire quelque chose gratuitement. On fait tourner un chapeau et ça va soutenir la librairie. J'ai fait, oh là là, c'est formidable. Et il se trouve qu'elle fait un spectacle pour enfants qui s'appelle Mina Goutte d'eau. Et ce spectacle de 18 mois à 5 ans, elle va venir le faire à la Flibus, dans la librairie. On va tout mettre en place à 10h30 du matin le samedi 5 juillet. Et elle ne fera pas que ça. Elle a trouvé une autre idée. C'est à 15h, elle va venir chanter parce qu'elle a aussi une vie de chanteuse. Elle s'appelle La Louise en tant que chanteuse.
Ah, La Louise.
La Louise. Elle va venir avec une autre chanteuse qui s'appelle Elle Grain. Et elles vont nous faire une lecture musicale à 15h, tout public.
Ah,
voilà. Donc c'est un relais artistique sur toute la journée du samedi 5 juillet.
Parfait. Vraiment. Frédéric, tu voulais dire quelque chose peut-être ?
Non, bah après, le 8 juillet, on va recevoir Emmanuel, alors je ne me rappelle plus son nom.
Massabova,
pardon, voilà, j'avais bien tout. Et qui est un parcours particulier, pardon, parce qu'il était champion de France de BMX. Vous voyez, c'est
les.
Et en fait, il habite dans le quartier, il a sorti son premier roman, et c'est une star du BMX. Hein, et. Très proche des idées libertaires aussi. Et donc, il viendra dédicacer des livres, et ça sera le 8 juillet, je crois, de 17h à 19h. Et il viendra dédicacer ses livres de BMX et son roman. C'est quelqu'un de, voilà, c'est des gens du quartier aussi. Là, sur la fin de l'année, début de l'été, là, on a beaucoup fait de choses avec des gens du quartier, parce que on a eu Camille Kouchner la semaine dernière.
Vendredi, on a eu Camille Kouchner.
La Grande Familia.
Familia Grande, et là, son nouveau roman Immortel, qui est vraiment splendide.
Oui, tout le monde m'en a parlé.
Ah, c'est vraiment magnifique. Et on l'a reçu vendredi soir, et franchement, on a rencontré une personne d'une générosité, d'une gentillesse, d'un altruisme, enfin vraiment d'un courage. Elle n'aimerait pas du tout que je dise ça, parce qu'elle est hyper humble en plus. Mm-hmm. Et franchement, ça a été une rencontre sensationnelle.
On le sent bien en lisant la Famille Grande.
Et son nouveau roman est extraordinaire.
D'accord.
Voilà. C'est pas la suite de la Famille
Grande. Non, ça n'a rien à voir.
Pas du tout. Et vraiment, franchement, il faut le lire.
C'est vraiment un vrai roman. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et c'est un roman. Et elle s'est lancée dans autre chose. Et franchement, elle parle des enfants. Elle parle des enfants d'une façon magnifique. Elle parle de l'amitié d'une façon magnifique. Enfin, c'est vraiment très, très beau.
Bon. Alors, c'est très bien, mais il faut être pragmatique. Donc, je rappelle que jusqu'au 11 juillet, il nous faut 61 000 euros pour sauver la Flibuste. Donc, sur la plateforme Ulule. Donc, je rappelle que la Flibuste, c'est 3 rue Jean-Jacques Rousseau à Fontenay-sous-Bois. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h, de 14h à 19h, du mardi au vendredi, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h. Voilà. Donc, on peut vous joindre par mail. Tout est sur le site internet de la Flibuste. Mmh. On peut envoyer des messages de soutien, mais surtout, on peut envoyer des sous sur la plateforme Ulule. Alors, Neil, un dernier mot avant qu'on ne conclue.
Eh bien, écoutez, je tenais quand même à remercier tous les lecteurs et lectrices qui sont passés à la librairie pour nous soutenir. On voit bien qu'au mois de juin, on fait des ventes un peu particulières, un peu plus que d'habitude, qu'il y a vraiment un mouvement dans le quartier. Voilà, parce que ce crowdfunding-là qu'on fait, cette cagnotte, pardon, c'était aussi une façon de voir, on s'est demandé avec Fred, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Est-ce que dans le quartier, les gens tiennent à nous ou pas? C'était aussi une façon un peu de prendre la température. Et ben là, on est motivés plus que jamais, ça nous a donné beaucoup de force. Mm-hmm. L'entraide, la solidarité, franchement, il n'y a que ça de vrai. Seule la lutte paye, comme on dit, tout et là, fait. La lutte paye. Ouais. Et dans tous les sens du terme, et humainement, elle paye. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, hélas, on est obligé de le subir. Oui. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les rencontres, les échanges, la chaleur humaine, l'accueil, la générosité. Et là, on en a eu vraiment beaucoup et on tient à remercier tout le monde. Et merci beaucoup à Radio Libertaire de nous accueillir aujourd'hui.
Ah non, mais Radio Libertaire est là pour ça. Ça, c'est normal. Frédéric, un dernier mot?
Oui, je vais pas répéter, mais je lancerai un appel, même si je pense que les auditeurs de Radio Libertaire, le savent déjà, mais je pense que se rendre dans les librairies de quartier, les petites librairies indépendantes, quelles qu'elles soient, c'est fondamental dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est un choix de société, un choix de vie en soi. Oui. C'est-à-dire que ces petits commerces, c'est tout la librairie, le livre, les petits commerces, etc. C'est un choix particulier. On n'a pas parlé, mais par exemple, nous, on essaye de beaucoup mettre en avant la poésie aussi, parce que la poésie, c'est une littérature qui est encore en plus en rupture avec la langue aujourd'hui qu'on nous impose tous les jours à la télé, ailleurs, etc. Mmh. Et je pense que si on veut résister au monde qui essaie de nous écraser aujourd'hui, parfois, ne serait-ce que passer dans une librairie et acheter un livre à 3 euros ou à 5 euros, ça existe. Oui. Acheter un bouquin pour ses enfants, un petit truc, même des fois, juste passer et regarder les livres, c'est quelque chose qui change le regard sur tout. Voilà. Et c'est si on veut résister...
C'est tous les jours.
Voilà, exactement. C'est tous les jours. C'est des petits actes qui ont l'air anodins, mais qui sont fondamentaux. Voilà. Merci. Et il y a beaucoup, beaucoup de librairies indépendantes qui ont besoin de vous. On n'est pas les seuls. Nous, on est là, on en parle aujourd'hui. On parle de nous, on parle de Publico, Quilombo aussi dans le 11e, dont la situation n'est jamais simple. Libertalia. Tout le monde aujourd'hui est dans le dur parce que. Quand la population est dans le dur, les librairies sont dans le dur. Et voilà, on est tous un peu menacés, mais on sait qu'on a l'habitude de lutter, on a l'habitude de la lutte, on a l'habitude de jamais rien lâcher, donc on lâchera rien. Mm-hmm. Mais on a besoin de tout le monde, et même un petit geste au quotidien changera beaucoup de choses.
Oui, merci Neil, merci Frédéric. Alors, on va remercier Ken Dong, sans qui il n'y aurait pas d'émission.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une surprise. On fête un anniversaire, un centenaire. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, un cœur rouge, il y aurait d'un gars, sans oublier de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais singe, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Juge le laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, la gloire pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juste, juste qui m'ont jugé tel qu'un maribin. Je dis blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à ça tout. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune m'est tant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur.
Negociam, ot veninta del corpo che canto la flor, flor de l'am, intervinter ni esperam. I la cinvenuce mi, aura grec, aura franca, e canto con mi, persa ma voce, ed iranta del cor, esperam.
Esperanto, chocolate.
Do, dentro.
Saluton al ĉiuj.
Saluton. Yes.
Saluton al la geaŭskultantoj.
Yes. Ĉu vi bone aŭskultas la aliajn ankaŭ?
Yes. Ah, mi havas la geaŭskultantojn.